On est par téléphone avec Fabien Desage, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille 2, actuellement à Montréal. On vous appelle, alors pas pour avoir des nouvelles de l'hiver canadien, mais suite à un article paru dans le Monde diplomatique du mois de janvier, un article intitulé « Rendez-vous manqué de la gauche et de la politique locale » que vous avez coécrit avec David Guéranguet, avec qui vous avez aussi écrit le livre « La politique confisquée », hein, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est David Guéranguet, effectivement, qui est enseignant-chercheur à l'École des Ponts.
Alors, ça parle des institutions intercommunales, communautés urbaines, communautés de communes. Ce sont des institutions que vous étudiez dans le cadre de votre travail universitaire, travail de recherche. Des institutions qui ont pris de plus en plus d'importance ces 30 dernières années du fait de la décentralisation.
Alors effectivement, c'est un peu la volonté qu'on avait avec David dans le livre d'abord et puis ensuite dans l'article dans le Monde diplomatique, c'était d'éclairer, on va dire, le fonctionnement de ces structures qui sont à la fois des structures qui s'occupent d'à peu près tout en fait aujourd'hui, hein. Il y a pratiquement aucune politique locale d'importance qui échappe à ces structures, qu'on parle d'urbanisme, de logement, de transport, de gestion des déchets, mais aussi de politique maintenant de développement économique, etc. Donc on a vraiment un champ très large. Et on a essayé de creuser, d'essayer de comprendre un peu ce paradoxe apparent, c'était que ces structures s'occupaient de plus en plus de choses. On en trouvait pratiquement partout, puisqu'aujourd'hui il y a quasiment 96% ou 97% du territoire national qui est couvert par des structures intercommunales. Et en même temps, ces structures, elles restent extrêmement mal connues des citoyens. On a des tas d'éléments qui permettent de le montrer, hein, mais parfois même les sondages réalisés par les structures elles-mêmes qui montrent à quel point finalement les citoyens soit s'en mêlent les pinceaux ou soit sont pas du tout au courant de ce que font ces structures, de qui les gouverne. Donc on a voulu éclairer ce paradoxe apparent et montrer finalement que c'était peut-être pas tant un paradoxe que ça, hein. C'est-à-dire qu'on avait tendance à être présenté comme un écart des structures qui se développent et qui paradoxalement sont pas très visibles. Nous on a voulu essayer d'expliquer le contraire, c'est-à-dire de dire que précisément ces structures sont peu visibles parce qu'elles se développent. Hein, parce que les élus qui siègent dans ces instances rencontrent trop d'enjeux à s'y entendre, à faire des compromis, à essayer d'y élaborer entre eux des politiques publiques pour exposer ce qu'ils y font aux citoyens. Hein. Donc c'est forcément ce paradoxe, il a quelque chose de très choquant démocratiquement, il a quelque chose de très interpellant. Et on a essayé de comprendre un peu les mécanismes qui permettent de comprendre cette situation et de comprendre cette montée en puissance d'institutions publiques avec une espèce de dispense démocratique, hein, des structures qui se développent à l'abri des regards.
Ça pose une question de démocratie parce que on est dans le cadre de démocratie indirecte. Hein, on vote pour des conseillers municipaux qui, eux, votent pour des délégués communautaires. Bon, même si la loi a un petit peu changé, maintenant, les listes sont obligées de signaler qui seront les délégués communautaires.
Tout à fait. Alors c'est un changement. Donc pour rappeler très rapidement, comme vous l'avez fait, hein, le fonctionnement préalable jusqu'aux élections à venir, le principe était effectivement celui du suffrage indirect. Hein, donc en gros, ce sont les conseillers municipaux qui élisent dans les conseils, une fois élus, les représentants au sein des structures intercommunales avec des règles de proportionnalité, hein, mais pas complètes d'ailleurs. En gros, les communes les plus importantes envoient un peu plus de conseillers, etc. Alors, il va y avoir un changement, mais on pourrait dire que finalement, ce changement, il est même pas homéopathique, en fait. Hein. Il est, avec David, on a tendance à dire que c'est un changement vraiment un faux-semblant, c'est un trompe-l'œil, sur lequel, d'ailleurs, on pourrait revenir, hein, puisqu'en gros, la loi on parle de la loi de 2010, hein, de décembre 2010, a introduit le principe du fléchage. Donc, le principe du fléchage, ça va pas conduire les citoyens à décider qui ils souhaitent désignés dans ces structures, mais en quelque sorte, quand ils vont voter pour leurs conseillers municipaux, dans le même temps, ils vont être informés de ceux qui vont siéger dans les structures intercommunales. Donc on voit bien que c'est un vote, on pourrait dire c'est presque un vote bloqué, hein, on utiliserait ce terme pour parler du Parlement, c'est presque un vote bloqué dans la mesure où les citoyens ne peuvent pas panacher, ils ne peuvent pas raturer l'ordre qui leur est soumis leur échappe complètement. Hein. C'est un ordre qui aura été élaboré par chacune des listes, en fait. Et on peut imaginer que, en plus, la circonscription reste éminemment communale, c'est-à-dire que les citoyens vont voter d'abord pour des conseillers municipaux. Les enjeux du scrutin, hein, les enjeux de l'ordre de la liste des conseillers communautaires qu'on va leur proposer, elle aura été complètement associée à ces enjeux municipaux. Hein. Donc, il y a quelque chose... Le mot est presque un peu fort, mais il y a quelque chose presque de la tromperie et de l'imposture, en fait, hein, quand on entend notamment, alors on est assez remonté avec David contre notamment l'Association des communautés urbaines de France, hein, qui présente ce changement comme l'arrivée du suffrage universel direct pour les conseils communautaires. Heureusement que le suffrage universel direct dans nos démocraties ne fonctionne pas comme ça, hein, parce que sinon on pourrait avoir beaucoup de doutes sur ce que c'est le suffrage universel direct. Le suffrage universel direct, le principe, c'est celui de la souveraineté de l'électeur, et donc c'est celui de pouvoir et des listes qui se présentent, et donc c'est pouvoir décider de qui on va élire. Là, il y a, en l'occurrence, le choix est complètement lié au choix municipal. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, ce changement. Il a surtout permis finalement aux gouvernants, hein, il a surtout permis aux gouvernants de communiquer sur le changement, hein, de dire finalement on va vers une nouvelle ère, puisque demain les conseils communautaires seront élus au suffrage universel et ça va régler le problème démocratique. Quand on regarde ça de près, on se rend compte qu'en fait ça va rien régler du tout, hein, ça change pas fondamentalement, même pas du tout, les logiques qui veulent que ce sont des élus dans le cadre municipal, qui vont représenter la commune dans les instances intercommunales, mais qui auront très très peu de liens directs finalement avec les électeurs. Il y a des enquêtes, hein, qui vont être lancées là-dessus, il y en a eu sur les précédentes élections municipales, donc on verra bien, mais on peut être très très suspicieux sur le fait que pour combien d'électeurs finalement le choix du conseil communautaire va jouer un rôle, va être décisif, sachant en plus qu'il y a il y aura très peu d'informations, comme c'est le cas à chaque campagne, sur ce qui se joue au niveau intercommunal, sur les ententes qui peuvent s'y faire, etc.
On parle aussi des lieux de décision. Pour avoir assisté à des conseils communautaires, on se rend bien compte que ce ne sont que des chambres d'enregistrement de décisions déjà prises ailleurs, en fait.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, les citoyens n'y vont pas beaucoup et ils ont peut-être raison parce que finalement on a tendance à s'y ennuyer fermement, hein, dans les conseils communautaires. On s'y ennuie parce que ne s'y joue pas grand-chose. Effectivement, ce sont des lieux extrêmement consensuels. Hein. On a recensé avec David, mais d'autres chercheurs l'ont fait, le nombre de décisions à l'unanimité. C'est quelque chose d'assez édifiant. Hein. On est à plus de 90% dans la plupart des enceintes à l'unanimité. Hein. Donc on parle même pas de majorité. Les conseils communautaires sont des instances où il se passe pas grand chose, et il se passe pas grand chose parce que la plupart s'est passé en amont, hein, donc parce que les décisions, les discussions éventuellement entre élus, elles se passent dans les lieux clos, hein, les lieux clos très nombreux dans ces structures. Donc ça peut être les bureaux de communauté, mais parfois ça peut être les conférences des maires, hein, ces structures un peu informelles, dans lequel finalement se font les arbitrages. Parfois ce sont les réunions des groupes politiques aussi. Et donc voilà, donc ces conseils communautaires, c'est un autre paradoxe, ce sont des lieux dans lesquels la structure met en scène un peu son fonctionnement consensuel, mais où il y a très peu prise pour des discussions, pour des débats et des délibérations, alors même que ça reste l'instance souveraine, hein, du point de vue de la loi. C'est le conseil communautaire qui est l'instance souveraine, in fine, en dernier ressort. Donc ça contribue un peu à ce paradoxe. Il faut savoir que ce consensus qu'on observe, il a rien d'évident, hein. C'est-à-dire que les instances à huis clos permettent aussi de préparer en amont, on pourrait dire, la cérémonie, la grande cérémonie du soir, et son fonctionnement, voilà, relativement rodé et routinier.
Oui, vous avez utilisé le terme consensus, hein, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement dans la bouche des conseillers communautaires, bonne intelligence aussi, et puis c'est aussi les conseils communautaires un lieu où les clivages gauche-droite finalement s'effacent. Alors, conséquences de cette dépolitisation quand même.
Alors c'est vrai, vous avez raison de le souligner, un des points marquants du fonctionnement de ces structures, qui nous a intéressé d'ailleurs avec David, hein, l'ouvrage s'appelle La politique confisquée, donc c'est pas pour rien. Un des points qui nous a intéressé, c'était le fonctionnement très atypique de ces structures par rapport à d'autres instances politiques en France, puisqu'effectivement la très très grande majorité, pour pas dire toutes celles qu'on a rencontrées, hein, qu'on a étudiées, fonctionnaient selon des règles qui sont pas des règles majoritaires, donc qui sont pas des règles où il y a une majorité et puis une opposition et puis des alternances, mais se fonctionnaient selon un mode de gouvernement où l'ensemble des formations partisanes, représentées par les élus, participer en quelque sorte à la direction de ces structures. Donc un fonctionnement voilà que les élus appellent consensuel, hein, qu'on peut appeler de compromis permanent aussi, qui était assez intriguant et qu'on cherchait à comprendre. Alors du point de vue des élus, vous l'avez dit, il y a souvent une présentation très élogieuse en fait, hein, de ce consensus. Alors, je dirais ça fait leur affaire, hein, puisque c'est le fonctionnement qu'ils adoptent, donc ils essayent de le présenter comme légitime. Il faut aussi qu'ils rendent des comptes quand ils s'allient dans ces structures avec des formations partisanes complètement opposées, hein, les cas dans lesquels des exécutifs sont composés d'élus communistes et d'élus UMP, en passant par les écologistes, sont très fréquents, hein, sont la norme même dans les grandes structures intercommunales. Donc il faut justifier ça. Il faut justifier ça, quand on leur demande en tout cas. Et une manière de justifier, c'est de dire que, en gros, ça serait pour le meilleur de tout le monde. En gros, le consensus permettrait de faire valoir les intérêts du territoire, de ne pas se chicaner, comme on dirait ici au Québec. Donc voilà, donc il y a une mise en avant très positive. Ce qu'on a essayé de montrer avec David, c'était le revers de la médaille, hein, le revers de ce consensus, dont on se rend compte qu'il a finalement beaucoup d'effets pervers. Hein. Vous avez utilisé le terme aussi de dépolitisation. Une des choses qui nous a intéressé dans le livre et dans l'article pour le Monde diplomatique, c'était de montrer à quel prix se faisait ce consensus, hein, entre élus, et que voilà, il fallait aussi un peu déconstruire, un peu analyser, remettre en cause ce discours lui-même consensuel sur le consensus. Hein, c'est un discours voilà unanimiste de célébration qui était d'ailleurs assez paradoxal, puisque finalement les élus, dans un premier temps, dans les années 60, hein, lors des premières réformes, s'opposaient. Plutôt, en tout cas une partie des élus s'opposait assez fortement aux structures intercommunales, et on se retrouvait dans une situation au début des années 2000 où finalement la plupart des formations partisanes, politiques, semblaient se mettre d'accord pour dire que le fonctionnement actuel de l'intercommunalité, donc une intercommunalité non démocratique, hein, avec des élus élus très indirectement, désignés indirectement, ce fonctionnement semblait les satisfaire. Donc on a essayé de résoudre un peu, de comprendre un peu cette énigme-là d'une alliance entre élus.
Alors justement, quelles sont vos conclusions? Comment ça se fait que tout ce beau monde s'entend à merveille apparemment
dans ces structures? Alors bon, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il faut regarder, finalement, notamment le mode de scrutin, mais pas seulement, c'est que les élus dans ces instances se considèrent d'abord comme des représentations de leur territoire, hein, donc notamment des communes dont ils sont issus. Ce qui fait que, en quelque sorte, les élus s'entendent pour faire la paix, hein, dans ces instances, parce qu'ils considèrent que les intérêts communaux qu'ils font valoir, mais aussi parfois leurs intérêts de professionnels de la politique, hein, de faire partie d'un exécutif, d'avoir un mandat de vice-président ou de secrétaire de bureau ou d'avoir une délégation, étaient suffisamment importants pour qu'ils essayent de faire la paix dans ces structures, sachant que ces structures sont de toute façon peu visibles, peu éclairées, et que ça leur coûtait pas grand-chose du point de vue de leurs militants, du point de vue des électeurs même, de s'entendre dans ces structures. Donc ce qu'on observe, c'est que, on pourrait dire, la prééminence du fait communal, hein, le fait que les élus cherchent à garder chacun un droit de veto, un droit de contrôle sur les politiques communautaires qui s'exercent dans leur commune, est une espèce de base d'accord. Hein. C'est la base d'accord, et c'est au nom du maintien de cette autonomie dans chaque commune qu'ils s'entendent pour ne pas s'opposer, ne pas fonctionner de manière majoritaire. En quelque sorte, ça serait trop coûteux, de leur point de vue, de risquer d'être dans l'opposition, hein, de ne pas profiter de la répartition des ressources. Hein. Les structures intercommunales sont caractérisées, du coup, par un fonctionnement où on a une répartition très, très égalitaire des ressources entre les différentes communes. On a voilà, un fonctionnement gagnant-gagnant, il faut que tout le monde gagne. Donc ça permet en quelque sorte aussi de faire ces accords un peu inattendus. Democracy.
toujours par téléphone avec Fabien Desage, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille 2, actuellement à Montréal. Alors, on vous avait dit tout à l'heure que finalement les citoyens avaient un peu raison de ne pas assister au conseil communautaire parce que c'était assez ennuyeux et technique. Mais est-ce que ça ne fait pas partie justement aussi du problème, le fait que les citoyens ne sont pas présents, n'arrivent pas à influencer la politique menée au sein de ces communautés urbaines, communautés de communes?
Alors merci pour votre question. Hein. C'est vrai qu'on pourrait dire, nous, dans nos travaux et notre article, notamment dans le monde diplomatique, viser à faire que, en quelque sorte, les citoyens, justement, s'intéressent à ces structures. Alors, concrètement, c'est vrai que c'est compliqué. On peut aller assister au conseil communautaire. Hein. C'est pas inintéressant d'observer justement la manière dont on se fabrique aussi le consensus en direct. Je dirais que l'autre intérêt, peut-être, si on veut quand même y aller et quand même participer ou s'intéresser à ces structures, l'autre enjeu, c'est peut-être de pousser en quelque sorte les élus dans ces instances à prendre des positions. Hein. Concrètement, une des nécessités peut-être pour les structures intercommunales aujourd'hui, ce serait que les citoyens, mais aussi donc les militants associatifs qui autour d'une cause ou qui sont opposés à tel ou tel équipement ou au contraire en faveur de tel ou tel équipement, en se rendant dans ces structures, en les sortant un petit peu de leur huis clos, poussent de manière assez forte en fait les élus à ne pas être condamnés au consensus, hein. Ça leur donne des ressources aussi eux-mêmes parfois pour s'opposer. Donc c'est un travail qui est difficile, c'est-à-dire que ces structures aussi sont présentées par les élus eux-mêmes comme techniques, elles traitent des dossiers extrêmement denses, complexes, hein. Alors, pour donner une idée, souvent dans les chaque conseil de communauté, c'est plusieurs centaines de délibérations, hein, dans les communautés d'agglomération ou dans les communautés urbaines. Donc il y a une grande densité, mais je dirais qu'il ne doit pas rebuter hein, le citoyen, parce que finalement, ces objets qui ont l'air a priori techniques sont en réalité extrêmement politiques. Hein. Quoi de plus politique que de savoir comment on répartit l'usage de la rue entre des modes de transport doux ou automobile ou de transport en commun, ou est-ce qu'on fait du parking? Quoi de plus politique que les questions en matière de logement, hein, de programmation de logement? Donc je dirais que voilà, ce travail, il a rien d'évident parce qu'il représente un certain nombre de coûts d'entrée. Mais assez modestement, avec David, hein, notre pari, c'était de donner des outils aussi, de donner des outils sur le mode de fonctionnement aux citoyens, aux militants, pour ne pas s'en laisser compter, hein, pour ne pas se laisser compter par les élus, la petite histoire finalement rassurante, circuler braves gens, il n'y a rien à voir, c'est trop compliqué, ou finalement c'est pour votre bien que nous nous entendons entre maires. On n'a pas eu encore l'occasion de trop d'en parler, hein, mais il y a vraiment des coûts à ce consensus, hein, y a des coûts pour le citoyen lui-même en particulier, hein, c'est-à-dire que les élus s'entendent dans ces structures, c'est pas parce que les élus s'entendent que ça fait le bonheur des citoyens, et en particulier, je dirais, de ceux qui auraient probablement le plus besoin de politiques de type majoritaire ou de politiques de redistribution. Donc concrètement, hein, on voit que les structures intercommunales, elles ont énormément de mal à planifier. Alors c'est un paradoxe, parce que c'est pour ça qu'elles avaient été conçues. Hein, c'est très compliqué pour elles d'élaborer des schémas d'aménagement à l'échelle de leur territoire, hein, à l'échelle du bassin de vie. C'est très compliqué pour ces structures de décider de politiques redistributives, c'est-à-dire de politiques qui prendraient aux communes les plus riches, ou même aux citoyens des communes, aux citoyens les plus riches des communes, pour donner aux plus pauvres, hein, ou qui ces structures, elles ont énormément de mal à décider d'équipements qui sont perçus comme gênants par les maires. Et quand je dis gênant, ça peut être tout simplement du logement social, hein, ce fonctionnement consensuel dont on a parlé, qui donne le droit au maire de s'opposer à un projet communautaire, en gros, hein, de manière plus ou moins informelle, fait par exemple qu'il est très compliqué, il reste compliqué aujourd'hui, pour les structures intercommunales, de répartir le logement social sur leur territoire, et encore plus, hein, de proposer éventuellement à des populations des quartiers les plus pauvres de pouvoir aller dans des communes qui le sont un peu moins. Donc on a vraiment des coûts de cette dépolitisation, c'est ce qu'on a essayé de montrer, et donc des enjeux importants pour les citoyens, pour les militants, de s'intéresser à ce qui se passe dans ces structures et de demander des comptes à leurs élus sur ce qu'ils y font. On the street,
parle de politique menée. Dans l'article paru en janvier dans le Monde diplomatique, vous regrettiez une certaine uniformisation des politiques menées justement par ces collectivités territoriales.
Alors c'est vrai que quand on observe les politiques publiques qui sont menées, je dirais que au-delà des différences de contexte, forcément, c'est pas toujours, on fait pas toujours passer un tramway dans les mêmes rues ou on peut avoir des temporalités un peu différentes. Mais ce qui est surtout marquant, finalement, c'est plutôt le mimétisme dans les politiques publiques qui sont conduites. Donc l'idée de rayonnement, la valorisation, l'attractivité du territoire en direction des classes moyennes supérieures ou des professions des classes créatives. Comme certains géographes les ont appelés, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente et qui montre aussi finalement que ce fonctionnement consensuel, le consensus, il se fait pas sur rien, il se fait sur des positions qui sont finalement assez mimétiques et qui en gros contribuent au fonctionnement assez classique de ce que d'autres auteurs ont pu appeler la ville néolibérale, donc une ville qui est plus tournée sur l'idée de rayonnement, de compétition entre territoires, que parfois vers la centralité des besoins ou des services à destination de ses habitants. C'est toujours des territoires qui se projettent en fait sur une population qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils n'ont pas parfois. Donc il y a plus que de traiter ou d'essayer de gérer directement, on pourrait dire, leur population. Donc il y a effectivement, on observe des formes de mimétisme qui sont liées aussi à la difficulté, encore une fois, de porter des positions un peu différentes, un peu dissonantes dans ces instances. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on montre notamment dans l'article du Monde diplomatique. La thèse qu'on soutient, c'est que, en quelque sorte, l'effet pervers du fonctionnement consensuel, il est encore plus grand pour les groupes de gauche que pour les groupes de droite. C'est-à-dire que pour les groupes de gauche, il les empêche notamment de politiser des questions. Il les empêche de proposer des politiques qui seraient singulières, comme les groupes de gauche, sans forcément non plus héroïser cette période, mais ont pu le faire à d'autres moments et ont pu porter une politisation du local avec des volontés de distinction politique et puis avec une représentation de certains intérêts sociaux, de certains groupes sociaux, beaucoup plus clair et affirmé peut-être que ça ne l'est aujourd'hui.
Justement, et c'est ce qui est paradoxal, c'est que la gauche a un peu abandonné le terrain de la critique de ces communautés urbaines, communautés de communes, et finalement c'est l'extrême droite qui critique, qui est le seul parti finalement, le Front National, à critiquer ces EPCI.
Alors c'est quelque chose qu'on souligne effectivement aussi avec David. C'est vrai ici comme dans d'autres domaines d'action publique, c'est que il y a forcément un grand danger à laisser finalement un certain nombre de causes, un certain nombre de critiques, d'éléments critiques orphelins de porteurs de gauche et de finalement de cette confusion ou cette proximité dans les programmes, cette proximité d'impression dans les groupes sociaux qui sont représentés dans ces instances, elle laisse tout un tas de citoyens orphelins de représentants, orphelins éventuellement de critiques. Tout va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes dans ces agglomérations. Il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. Il y a des inégalités sociales qui se renforcent. C'est ce qu'on montre aussi et ce qu'on dit et ce que disent beaucoup d'autres chercheurs, c'est que les inégalités sociales, elles se renforcent dans les agglomérations, dans les villes françaises ces dernières années. Donc les structures de mutualisation, de péréquation intercommunale, bien sûr qu'elles ne sont pas les seules concernées dans ce processus, mais en tout cas elles n'ont pas réussi à endiguer ce mouvement. Et donc, l'absence, je dirais, d'un discours, d'une réflexion démocratique, mais d'une réflexion aussi politique sur la décentralisation, sur le rôle de ces instances dans la décentralisation, laisse, comme dans d'autres domaines, le monopole de la critique au Front National. Alors c'est d'autant plus facile, faut le dire, pour les élus du Front National qui ne sont pas dans cette structure. C'est en quelque sorte, par des raisons justement du mode de scrutin, ils sont en dehors. Donc en étant en dehors, ils ont la critique, on pourrait dire, plus facile. Mais il faudrait réimporter dans ces structures la critique. Il y a eu des moments dans l'histoire contemporaine, et on ne remonte pas aux années 20, dans les années 70 notamment, des élus, des jeunes élus, une nouvelle génération d'élus sont entrés dans ces structures et ont voulu, ont cherché, ont plus ou moins réussi selon les contextes, à y inscrire du débat, à y inscrire de la critique, à proposer des alternatives. C'est quelque chose qu'on défend aussi dans le papier, qui est en toile de fond, c'est l'idée que ces instances, elles nous font réfléchir de manière un peu aiguë, de manière accentuée, sur le fonctionnement de la démocratie en général, sur l'évolution de structures de décision hein, qui fonctionnent pas sur l'idée que le conflit est nécessaire en fait, hein, et sur l'idée que le conflit en démocratie c'est pas le mal, mais c'est quelque chose à partir duquel on va justement construire des compromis. Il y a beaucoup de points communs, je pense que certains auditeurs l'auront peut-être noté. Il y a beaucoup de points communs entre les structures qu'on étudie et puis l'Union européenne dans le mode de fonctionnement, c'est-à-dire dans la primauté donnée au consensus, la disparition des alternatives ou de l'impression d'alternative. Et il y a un vrai danger, bien sûr. Il y a déjà un danger social dans le fait qu'effectivement certains intérêts sociaux sont peu représentés, mais il y a un vrai danger politique dans le fonctionnement de ces structures, c'est de, on pourrait dire, d'affaiblir, d'euphémiser le sens de la démocratie, de relativiser aussi la possibilité pour certains d'être représentés. Donc ça donne lieu effectivement à une alternative Front National à certains endroits, mais ça donne aussi lieu, surtout aussi beaucoup, dans les milieux populaires à l'abstention. Hein, je pense qu'il faut... pendant longtemps, le tissu local se sentait préservé de l'abstention, hein, puisque en gros l'abstention elle était quand même forte, mais elle était moins forte qu'à d'autres scrutins. Et donc c'était une façon de dire bon, tout va bien de notre côté, tout va bien du côté du local, tout va bien du côté des communes, les citoyens continuent d'aimer leur maire, etc. Sur le temps long, c'est pas vrai, hein. L'abstention elle augmente aussi fortement au niveau local. On nous annonce qu'elle sera encore plus forte à ce prochain scrutin qu'elle l'était auparavant. Donc la démocratie en France est aussi malade du local, hein, est aussi malade du local, et la capacité à produire des alternatives, à produire du sens politique sur des politiques publiques, elle se construit aussi au niveau local. Hein. Pour beaucoup de citoyens, le rapport ordinaire à la politique, le rapport ordinaire aux questions de société, au débat, il se construit pas sur la position de la France en Centrafrique. Il se construit sur la gestion de la voirie, la gestion du ramassage des déchets, qui pose des vraies questions politiques, hein, des vraies questions de débat sur la répartition, la redistribution, la justice, la manière de décider, etc. With democracy.